Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous, on espère que vous allez bien et on vous accompagne ce dimanche comme tous les week-ends jusqu'à midi. Hydratez-vous, hein, faites attention, on est en train d'arriver petit à petit à la fin de cet épisode de canicule. Mais dès le matin, là, c'est important de pas faire n'importe quoi aussi, d'aller courir dans tous les sens, de faire ces 100 bornes de vélo. On fait attention et puis on espère surtout que tout s'est bien passé pour vous là, parce qu'il y a eu des grosses rafales hier sur toute la France avec de forts orages qui ont notamment perturbé la finale du top 14. C'est quand même allé à son terme. Si on était aux États-Unis, je suis pas sûr que ça aurait été la même chose. Allez, on a un casting évidemment aujourd'hui pour en revenir sur cette finale avec Philippe Saint-André qui est là. Salut Philippe.
Salut, ça va Georges?
Ça va, t'as pas eu trop eu peur des orages hier au Stade de France?
Non. On est solide, ne t'inquiète pas.
Ah ouais, c'est ça, même s'il neige, s'il tombe des œufs de graines, voilà. On continue à jouer. Cédric Evans, pareil, tranquille?
Tranquille, pas ouais. Aucune crainte.
Oui, il faisait pas trop chaud hier?
Non, ça allait. Du moins, nous, dans les tribunes, sur le terrain, certainement bien plus. ça allait.
Qui a le meilleur cadrage débordement entre Philippe Saint-André et Cédric Evans?
Allez, je vous laisse décider.
Cédric Evans.
Ah ouais, c'est
moi,
vrai?
C'était le cadrage d'Eblément. C'est-à-dire tout droit.
Impressionnant. Elle est chez elle actuellement. Chez elle, c'est où? C'est à Wimbledon. Marion Bartoli, de l'autre côté de la Manche. Salut Marion.
Bonjour les amis, comment allez-vous?
Très bien, mais toi surtout, là, ça devrait être tes deux semaines préférées de l'année.
Écoute, j'ai passé quelques petits jours là avant que le tournoi commence, assez sympathique. Je vais tout vous raconter. Tout vous dire.
Marion, comme elle a gagné, elle est all access, hein. Elle rentre où elle veut. Hein. Donc, elle est même.
Ah là, oui, vraiment.
Plus c'est la king.
Là, c'est la king queen tout.
Là, c'est la queen.
Même elle accueille le roi, King Charles. Attendez, laissez-moi passer d'abord. Et lui, à une semaine du Tour de France, oh là là, Jérôme Pinot a son poids de forme, hein, avant d'attaquer trois semaines de la Grande
Boucle. C'est vrai, hein, il est affûté là.
Affûté, GGO.
Eh ben écoute, il faut s'y mettre. Salut, Georges.
sois pas gêné.
Surtout, je sais que je vais passer 4 semaines avec Cécieux Coppel et Pierre-Yves Leroux, et à mon avis, je vais en reprendre. Tu vois, donc j'ai pris un peu d'avance.
Mais non, tu vas voir, parce que tu vas être tellement embarqué, peut-être.
Oui,
par
embarqué,
l'épopée de Paul Sexas, tu vas plus manger, tu vas boire que de l'eau. Allez, les amis, tiens, je vous rappelle qu'il y a le supplément sportif de RMC en kiosque dans la tribune dimanche, avec notamment une interview exclusive de Romario, le Brésilien, qu'on écoutera cet après-midi sur RMC. Donc voilà, la tribune dimanche maintenant en partenariat avec RMC. Le week-end, le programme des GG du sport à 10h sur le ring. On est à deux jours du 16e de finale de l'équipe de France face à la Suède. Est-ce qu'on s'enflamme trop vite avec ces bleus? J'ai lu beaucoup de messages en ce sens hier. Vous votez sur le compte X des GG du sport. On sera sur place aux États-Unis sur le buzzer. Donc on va continuer de parler de cette Coupe du Monde parce que c'est le début des 16e de finale aujourd'hui avec Afrique du Sud, Canada à 21h. Est-ce que vous avez l'impression que le mondial débute enfin à 10h30, Marion, je te passe le brassard de capitaine des GG.
Oui.
Parce que t'es chez toi, je le disais, et surtout parce que tu vas voir une de tes grandes potes sur le circuit faire son grand retour à 44 ans. Serena Williams va jouer en simple sur le grand chelem anglais. Alors toi, ça t'excite, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi. Tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi.
Je vais avoir quelques arguments, je pense que je vais tous vous convaincre.
Ah, bah oui, bien sûr, parce que t'arrives toujours tous à nous convaincre. Et même si on n'est pas d'accord avec toi, tu nous obliges. Le zapping avec la F1, le Grand Prix d'Autriche à 16h. Il y a du cyclisme avec les championnats de France et la course au maillot bleu-blanc-rouge, de la natation, ça doit faire du bien avec la chaleur. Le vestiaire, on va parler de l'importance de l'ego dans le sport de haut niveau. Tiens, juste rapidement, petit tour de table. Vous aviez de l'ego quand vous étiez sportif de haut niveau? La vérité, Cédric Evans.
C'est obligatoire.
Philippe Saint-André, Jérôme Pinot.
On en a toujours. Hein.
Mario Bartoli.
La vérité, si je mens.
Voilà, bien sûr.
Bah oui.
Vous allez voir, ça va être une bataille d'ego tout à l'heure. C'est ce que je dois gérer tous les week-ends. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez un bon cadeau de 50€ à valeur sur Agfa Photo Print. Vous pourrez imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances sur un album photo, un poster ou sur un mug. Hein. Par exemple, vous pouvez imprimer une photo de Queen Bartoli, gagnante à Wimbledon, sur votre mug.
Non,
pourquoi pas, si les gens sont fans. Pour remporter votre bon cadeau Agfa Photo Print, appelez le 3216, touche 4, ou envoyez sport au 73216. Sport au 73216. Mais d'abord, le bouclier de Brennus. c'est une habitude. Retourne à Toulouse pour la quatrième année consécutive. Montpellier a été vaillant, mais terrassé sous l'orage au Stade de France. Vous l'avez vécu hier soir sur RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Soit le quadruplé pour Toulouse, ou alors l'incroyable série du MHR qui peut être récompensée. La logique ou la récompense. La finale du top 14, c'est parti à l'instant. Il va y aller. Quel essai. La fin de passe de Boubacar avec une combinaison à la Toulousaine. Les filous de Toulousain sur l'expérience. Mais à fou, à un mètre de la ligne. Oh là là, c'était presque sur la ligne. Du pas hauteur, l'essai. Essai de Boubacar, le doublé pour Peato Boubacar. Sur l'extérieur, Ntamak, dans le dos pour Berkingan qui passait. Attention, s'il y a décalage pour Teddy Thomas, il va aller marquer l'essai. Non, il est rattrapé intérieur pour Dupont. Et l'essai d'Antoine Dupont. Le ballon pointe Gandebe qui s'enfonce maintenant dans la défense toulousaine. Le crochet, il va y aller dans l'intérieur, il va remettre avec l'essai des Montpellierains, signé juste au Picardo sur cet éclair d'Ngandebe.
On va entendre la sirène, 79 et 58 secondes. Vous allez entendre cette sirène et pénalité pour Toulouse.
Il dégage le ballon. C'est une dynastie 2023, 2024, 2025, 2026. Le Stade Toulousain bat Montpellier 28 à 20. Et champion de France pour la quatrième fois d'affilée. Et Antoine Dupont se dirige vers le podium où il y a tous les Toulousains. Ils vont arriver au milieu et ils soulèvent ce bouclier Brennus, 25e bouclier pour le Stade Toulousain, le quatrième de suite, la 12e finale remportée.
Et oui, c'est la musique de l'été toujours à Toulouse, hein, en fait. Oui. passer une finale, voilà. Bon, regardez sur les plateformes de musique, c'est 3 millions d'écoutes tous les ans à Toulouse. Montpellier a eu des occasions, mais c'est donc Toulouse qui a résisté, tenu la distance et géré sa finale encore une fois pour s'imposer 28-20. 25e titre des Rouges et Noirs qui enchaînent donc 4 titres à la suite, comme l'avaient fait les hommes de Guinovès entre 94 et 97. Le top 14 a vu 6 boucliers de Brennus sur les 7 dernières saisons. Retournez à la Ville Rose. Les GG, je vous pose la question. 4 à la suite pour Toulouse. L'hégémonie toulousaine est-elle une bonne chose pour le rugby français? Pas simple comme question. Philippe Saint-André.
Oui.
Cédric Emmons.
Non.
Jérôme Pinault.
Non.
Marion Bartoli.
Plutôt oui.
Et on a un débat là, on vous attend au 32-16, c'est bien, c'est le concept de l'émission, et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Avant de débattre, Pierre Thévenet était au Stade de France pour RMC hier. Salut Pierre.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Il a mis les manches longues ce matin, pas du tout comme hier, où c'était un peu moite.
Il est chaud hier.
On rappelle, ça a été interrompu par l'orage, 15 minutes. Comment les Toulousains ont parlé de cette domination après la finale?
Ils ont marqué l'histoire et au fond d'eux, ils le savent. Les casquettes et t-shirts back for back étaient de sortie en clin d'œil au back-to-back du PSG réalisé en Ligue des Champions cette année. Mes joueurs comme entraîneurs avaient du mal à vraiment réaliser ce qu'ils venaient d'accomplir, à l'image de Virgil Lacombe, entraîneur des Avants.
C'est difficile de le réaliser puisque là on est en plein dedans, tout le monde est en train de le vivre, mais c'est quelque chose d'énorme et il ne faut surtout pas le banaliser.
Il faut se nourrir de l'intérieur. Voilà ce qu'a dit également l'entraîneur, phrase qui illustre bien la capacité des Toulousains à trouver des moyens de motivation pour repartir au combat. Et pour comprendre la volonté de domination des Rouges et Noirs, écoutez Hugo Mola sur la pelouse après le match. Il réunit comme d'habitude ses joueurs autour de lui, attend l'arrivée des micros du diffuseur et envoie cette tirade.
Bravo les mecs. Ce qui est bien, c'est 4 fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avec la seconde mi-temps de merde qu'on fait. Donc on a encore de la marge.
Oui.
Par contre, bravo les mecs. Vous êtes exceptionnels. Le club est exceptionnel. L'équipe est exceptionnelle. Et continuons comme ça les mecs. Allez, et après tout là.
Kiffer Montpellier d'écouter ça.
Cette génération toulousaine a donc raflé 8 titres en 7 ans, toutes compétitions confondues, mais pense déjà à la suite comme Hugo Mola et comme son ouvreur Romain Ntamak.
Évidemment, c'est sûr que c'est la logique de dire qu'on veut en chercher un cinquième, mais en plus avec Hugo qui nous a déjà mis une petite pique 5 minutes après la fin du match sur ça, c'est sûr qu'on va l'évoquer, mais aujourd'hui on va déjà savourer ça. 4, c'est exceptionnel dans le rugby d'aujourd'hui, dans le top 14. On voit à quel point c'est dur d'être en finale ou en phase finale déjà chaque année, donc 4 titres d'affilée, c'est juste exceptionnel, donc on va déjà se voir à ça et on se projettera sur la saison prochaine plus tard.
Depuis 2019, le Stade Toulousain, tu l'as dit, a remporté 6 boucliers sur 7 possibles. Et au vu de l'effectif et de la motivation, on a du mal à voir qui pourrait mettre fin à cette hégémonie.
Et 5 d'affilée, ce serait un record hein, si jamais ils y parviennent l'année prochaine. On est vraiment en mode dynastie pour les Toulousains. Merci Pierre, tu restes avec nous. Alors, est-ce que cette hégémonie est une bonne chose pour le rugby français ? Philippe Saint-André, toi tu as dit plutôt oui.
Ben oui, pourquoi ? Parce que tous les autres clubs ont envie de d'imiter le Stade Toulousain. Il faut quand même dire que le Stade Toulousain, depuis 2 ans en Coupe d'Europe, il n'y arrive pas et ils perdent contre Bordeaux. Hier, on a pu voir une finale. Alors, il faut féliciter les Toulousains et leur efficacité. Ils sont rentrés 4 fois dans les zones de marque en première mi-temps pour 3 essais. Alors que Montpellier, ils ont eu, on va dire, 5 pénal touches ou des bras cassés à 5 mètres de la ligne et grâce aussi à la grosse défense du Stade Toulousain. Non, et je crois que le Stade Toulousain 1, il travaille bien. 2, ils ont une équipe exceptionnelle, mais qui a beaucoup, beaucoup de clubs qui vont les challenger. Bordeaux, Montpellier, Stade Français, le Racing, etc.
On rappelle, l'année dernière, il y a en prolongation, voilà. Toulousain.
Et on peut voir aussi la complexité de ce top 14, parce que dans le top 6 de cette année, il y avait 5 nouveaux par rapport à la saison dernière, que le Stade Toulousain, qui était de nouveau dans les 6 premiers. Donc on peut voir la difficulté de ce championnat. Par contre, bravo au Stade Toulousain. Et puis bravo quand même à Hugo Mola. Hugo Mola n'a pas perdu une finale depuis qu'il entraîne
8 sur 8.
Le Stade Toulousain, 8 sur 8. Donc, mais non, moi je trouve que le Stade Toulousain, il mérite. Par contre, ils ont eu chaud hein, parce que la deuxième mi-temps,
plus serré.
La deuxième mi-temps, ils ont été quand même emportés, que ça soit devant. On peut voir que le Stade Toulousain n'a pas trouvé les touches. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas prendre des ballons portés de Montpellier. Par contre, Montpellier, pour moi, doivent prendre les 3 points, surtout en fin de première mi-temps, pour coller au score. Et à la fin, au lieu d'être à 8 points, si tu es à 5 points, le match est complètement différent.
Les 9 premiers points potentiels, ils les prennent pas.
Oui. On va en parler tout à l'heure plus en détail. On va se demander si Toulouse était vraiment prenable, hein, parce que c'est vrai que les Montpellierains avaient exprimé des regrets. On en parlera à 10h40. Mais Cédric, sur ce sujet, sur l'hégémonie toulousaine, donc 4 à la suite, 25 Brennus. Toi, tu dis que c'est pas forcément une bonne chose pour le rugby français.
Alors bravo au Stade Toulousain. Ils font tout pour avoir cette hégémonie sur le championnat. Après, s'il n'y a pas plus de concurrence, vous laissez traîner un peu les oreilles au Stade de France, au Stade Vélodrome, ça commence à agacer un peu tout le monde de voir toujours le Stade Toulousain gagner le championnat.
Tu sais que même Antoine Dupont, hier sur la pelouse, a dit, on sent même que nos supporters, le bruit n'est pas tout à fait le même que les années précédentes. Une habitude.
Ouais, il y a une habitude, mais après, le club fait tellement tout parfaitement en championnat, en Coupe d'Europe, Philippe l'a rappelé, ils sont passés au travers ces 2 dernières années, mais dans le championnat, moi, j'aime voir des nouvelles équipes arriver. J'ai envie de qu'ils soient challengés encore plus fort.
Eh ben, cette année, il y a Montpellier. L'année dernière, il y a Bordeaux.
Mais c'est encore Toulouse qui gagne. Je pense que l'écart, ils ont le droit
de bien travailler. Ah, t'as joué au Stade Toulousain. Ils ont le droit aussi de bien travailler, Philippe.
C'est pas ce que je dis. Qu'ils travaillent bien. Il n'y a pas de souci. Je suis pas, vous le savez, assez sur le plateau pour dire que je suis plutôt pro-toulousain qu'autre chose. Mais j'aimerais les voir challenger, qu'on les challenge encore plus, qu'il y ait plus d'intérêt dans ce championnat. Ils ont lâché les 2 dernières journées de championnat parce qu'ils étaient au-dessus. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je suis pas anti-Stade Toulousain, mais
du tout. Ah bah non, surtout pas toi.
J'aimerais qu'il soit
pour l'intérêt du produit top 14. En fait.
Regardez ce qui s'est passé avec Lyon au foot 7 ans d'affilée.
Et le Paris Saint-Germain.
Cette année, avec le PSG, on sait que le PSG va gagner. Donc pour le diffuseur, pour plein de choses, pour nous, pour l'histoire qu'on veut raconter, il faut qu'il y ait de la bagarre.
Ouais, mais le PSG, il gagne en championnat. Il gagne aussi en Europe.
Ce que dit Cédric. Il y a quand même une très belle bagarre avec.
Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre, Marion.
Tu crées des histoires. Ça me rappelle Nadal à Roland Garros.
Bah, justement.
Une domination, une hégémonie de Rafa que Novak Djokovic a été capable d'élever son niveau de jeu et d'aller le battre à Roland Garros. De toute façon, les excellents clubs ou les excellents joueurs sur des sports individuels tirent tout le monde vers le haut. C'est une évidence parce que les autres ont bien évidemment envie de les battre.
Vas-y, Marion, vas-y.
Si. Non, mais pour moi, cette hégémonie, effectivement, est quand même, et vous l'avez dit, l'écart se resserre, parce que l'année dernière, la finale avait été extrêmement serrée. Cette année, et ça a été dit également par mes collègues, on l'a vu sur la deuxième mi-temps, il n'y a quand même pas autant de marge que ça. Ils ne leur mettent pas 28-0, ce n'est pas une hégémonie totale. En Champions Cup, on les a vus, et d'ailleurs, Antoine Dupont l'a dit également, c'est vraiment leur objectif. Pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à la gagner. Pour moi, l'excellence tire tout le monde vers le haut. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'effectivement un club va arriver à battre Toulouse sur le bouclier de Brennus, mais pour moi, il crée un réservoir pour lequel de France, une grande partie des internationaux français évoluent ou est passée par Toulouse. Ils créent des joueurs exceptionnels, on peut bien évidemment les remercier pour ça. C'est une vitrine fabuleuse pour le top 14. Ça me rappelle aussi beaucoup ce que Béziers avait fait dans les années 70-80. Alors tu as rappelé Lyon dans le foot ou le PSG actuellement. Ouais. Il y a eu d'autres clubs qui ont eu cette hégémonie et cette hégémonie a fini par tourner. Et pour moi, effectivement, ça finira, toi qu'il arrive par tourner, mais ça va créer une émulation vers le haut et ça va créer surtout la capacité à d'autres clubs à vouloir aller les chercher qui va permettre de faire progresser tout le monde.
Et oui, mais Marion, c'est l'école comme David Douillet, c'est l'école de l'excellence, c'est ça. C'est, il faut valoriser les grands champions et les mettre en avant pour tirer tout le monde vers le haut. Jérôme, toi sur l'hégémonie, pas forcément une bonne chose. Non, t'as les comparer avec Pogacar, je crois, avec les coupes UAE.
En fait, ce qui se passe, c'est que là, on parle des gens, Philippe et Cédric parlent en tant que spécialistes. Alors, c'est sûr que quand tu vois les choses, le club travaille super bien, mais de l'extérieur. Moi, j'ai assisté à la première mi-temps du match hier, depuis le club équestre de ma compagne.
Ah oui,
tous les gens disent bon, on va pas regarder, c'est Toulouse qui va gagner. C'est ce que beaucoup de gens qui ne suivent pas le rugby assidûment pensent, comme à l'époque Nadal pour Roland Garros, comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Moi, je suis dans un sport où s'il n'y a pas l'espoir d'un jeune Français qui arrive, les gens commencent à se lasser.
Ce qui n'empêche pas qu'on célèbre la domination.
Mais bien sûr, on va regarder quand même.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne forment pas des bons joueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils alimentent les.
Oui, de c'est pas la question. À pas se tromper sur. On va regarder quand même. On va suivre nous, les amoureux de sport. Mais pour intéresser le plus grand public, le rugby est quand même un sport de spécialistes. Pour essayer d'intéresser des personnes à l'extérieur et qui ne sont pas forcément attirés par ce sport, c'est compliqué. Quand c'est toujours le même qui gagne. Exactement. C'est ça que je veux dire.
Il faut aller conquérir
l'hégémonie. Voilà, c'est ça.
Tu les attires par.
Après que ce soit la meilleure équipe, le meilleur club, oui, c'est pas de problème. UAE est la meilleure équipe aussi. Mais UAE qui gagne toutes les courses et que le Tour de France est gagné par Pogacar et dominé par Pogacar, je peux te dire que ça va pas attirer les nouveaux spectateurs.
Le Stade Toulousain, cette année, ils ont encore perdu en demi-finale contre Bordeaux en Coupe d'Europe. Donc, ça leur arrive aussi.
Mais tu vois, c'est le parallèle à Paris Saint-Germain.
Ça leur arrive aussi de perdre.
Il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain et je pense que ça écarte et agrandit le cercle de supporters de ce club quand ils jouent en Europe, mais en championnat.
Mais hier j'étais au Stade de France, quand même 70% du Stade de France était Toulousain. Ah, les Toulousains suivent encore leur équipe.
En première période, les supporters toulousains étaient quand même très calmes, j'ai trouvé. Très et bien, ouais. Quand ils ont commencé à challenger, c'est là qu'ils ont commencé à donner de la voix.
Ils ont commencé à trembler.
C'est aussi pour ça que je pense que les supporters vont peut-être se lasser un peu. Ils sont moins en
finale. Pierrot, parce que le scénario de la finale.
On ne va pas demander à Toulouse d'être moins bon quand même.
Mais c'est
pas la solution en fait.
La solution, c'est peut-être dans l'équilibre des équipes, les forces et présences des uns et des autres. Ça peut être les autres équipes travailler mieux, regarder ce qui se fait.
Alors moi je vais quand même rappeler un contexte parce que j'ai beaucoup de messages là-dessus sur WhatsApp. Il faut le dire. Il faut rappeler que le Stade Toulousain est actuellement sous la menace d'une grosse
sur le
salary cap.
Ils ont déjà été
sanctionnés dans l'affaire du transfert, douteux de Melvin Jaminet. Ils ont eu des points en moins cette saison, mais ils ont quand même gagné. Non, mais Pierre, ça fait partie de la petite musique qu'il y a autour du rugby et qui a même perturbé les joueurs toulousains cette saison.
Ils ont perturbé ou motivé, c'est toujours pareil. C'est que
là, c'est motivé.
Tout le monde autour dit oui, mais attendez, rappelons quand même que Toulouse triche. Globalement, c'est un peu ce qui se dit et qu'il faut le dire. Et t'as raison de le dire. Et à l'inverse, le Stade Toulousain nous dit on connaît nos ennemis. C'est Gomelin avant le match. On connaît nos ennemis. On sait qui nous veut du mal. On se motive entre nous. On se resserre autour des joueurs.
C'est la musique récurrente.
Mais pour l'instant, le Stade Toulousain arrive à s'en faire une force de ces critiques-là. Ouais, après, à voir si ça va finir par les perturber.
Après, c'est assez, assez complexe quand même, parce que le salary cap, les contrats d'image rentrent dans le salary cap. Ah oui. Et tu peux comprendre qu'un joueur comme Antoine Dupont, qui a une vraie image en dehors du Stade Toulousain.
Philippe, et donc, les contrats d'image avec des sponsors du club également.
Il y a certains contrats d'image, on le connaît, on le sait, on a tous signé, on en a eu des contrats d'image à gérer. Après, quand il y a contrat d'image, il y a image. Et quand il n'y en a pas au bout, ça fait un peu salaire caché, salaire de mis en place pour essayer de contourner la loi. C'est pas tellement le souci de cette équipe qui domine avec ses contrats, parce que finalement c'est le grand public, encore une fois, moi j'y reviens, à ce grand public, il ne connaît pas toutes ces problématiques là. Ce qu'on sait, c'est que les gens lisent ce genre d'article. Par contre, le score du top 14, ils vont pas le lire. Par contre, cet article là, ils le lisent. Et hier, il y a un miracle pour vous, grand spécialiste du rugby et amoureux de rugby, c'est la finale. S'il y a pas la deuxième mi-temps de Montpellier, si Toulouse ne fait pas une deuxième mi-temps médiocre selon les spécialistes, c'est l'enfer.
Ils ont fait exprès de rater la deuxième mi-temps.
S'il y a 40 points d'écart en finale,
non mais c'est vrai.
14,
non,
surtout ce qui est vrai, c'est la demi-finale.
Mais il y avait 25 à 6 après la première mi-temps.
Ouais, non mais la demi-finale où le Stade Toulousain a déroulé contre le Racing. Il y a 2 ans la finale face à Bordeaux à Marseille. Alors que c'est vrai que hier il y a eu match. Et sur la deuxième mi-temps, on va dire, la possession, c'est plus de 60%.
Il y a plus de possession pour Montpellier.
Pour Montpellier, occupation, il y a 55%. Et les coachs de Montpellier, quand ils vont voir les stats, ils vont dire, on a gagné le match. Mais non, le seul problème, c'est que
le retour de la pause fraîcheur était très compliqué pour Toulouse.
Exactement.
Mais en seconde période.
Mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts, Montpellier, parce qu'ils ont eu de raides occasions.
On va en reparler tout à l'heure, ça. Est-ce que Toulouse était vraiment prenable? 4 à la suite pour Toulouse. Cette hégémonie est-elle une bonne chose pour le rugby français? Tiens, il y a plein de messages. L'effet Stade Toulousain est effectivement peut-être un peu en train de lasser les gens. On a quand même également des supporters de rugby, des fans de rugby qui nous disent là c'est vrai qu'on a eu la période novice, on a l'impression que maintenant ça continue avec l'équipe du Gomola, et il faut valoriser aussi ces équipes. Et puis on a un message de Fraise qui me dit: Marion, je vous aimais déjà avant Wimbledon et je vous trouve fantastique comme consultant RMC.
C'est gentil. Ah là ça me fait mon dimanche. Là tu vois, tu peux dire toutes les horreurs pendant encore 2 heures, c'est pas grave.
Oui, mais tu sais, Marion, je suis dans la gestion d'ego, moi. C'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure. Et à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Cédric Clément, Philippe Saint-André, Jean Pino, Marion Bartoli et vous au 32-16. On parle du Stade Toulousain, donc qui allait chercher un 4e bouclier de Brennus consécutif. Cette hégémonie est-elle une bonne chose pour le rugby français? Tiens d'ailleurs, Cédric, tu m'as fait part de ça. Pour la première fois, les Toulousains vont avoir, comme les joueurs NBA, une bague de champion.
Exactement. On l'a vu, ils ont publié, ils ont fait faire des bagues de champion comme au basketball avec une amie derrière, qui est derrière aussi ce projet, Magali Guillaume, des bijouteries Guillaume à Béziers. Ouais. Très belle.
Ah, Béziers.
Exact.
Ville préférée de Marion Bartoli.
Non, une très belle bague, elle est très jolie.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que Marion nous a sorti la stat, c'est que tu es passionné par cette ville. Et ce
bien sûr,
et
Marion. Non, mais attends, rétroactivement, tu ne vas pas récupérer de bague de champion, Cédric?
Alors, j'ai posé la question, je crois qu'ils ne vont pas monter aussi loin. Il y a des photos qui circulent, je crois que c'est Romain Tamac qui en a 6, c'est quand même un bon coup.
Ah oui, mais si je te balade avec 6 bagues comme ça, c'est un
peu mal. Ça se porte pas.
Marion elle le ferait, je pense. Il y avait une grosse bague de Wimbledon. Je vois bien.
La couronne,
On va y penser à l'affaire, cette couronne.
La couronne dans les
années. Je vais vous envoyer le badge de membre dans le groupe WhatsApp. Rien que pour
classe,
rien que pour ça.
Tiens, événement sur RMC. Je rappelle, vous pouvez jouer pour gagner votre prime de match. Actuellement, le montant de la prime est de 77 000 euros. Et oui, parce que je vous rappelle qu'on ajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. On a appelé l'autre jour un auditeur qui voulait jouer. Il n'avait pas le bon chiffre de la prime. Du coup, il ne l'a pas remporté. C'est pour ça qu'elle est encore élevée. Donc, restez à l'écoute. Et au moment du top inscription, vous aurez 10 minutes pour envoyer but, B-U-T, au 7-32-16. But Marion, but au 7-32-16. L'hégémonie toulousaine est-elle une bonne chose pour le rugby français? Heureusement que moi, j'ai pas d'ego quand même. C'est la question qu'on se pose ce matin après le quatrième titre consécutif.
Non, heureusement que t'as l'humour surtout. C'est ça,
de l'autodérision. Tiens, on va prendre les auditeurs en 32-16. On a envie de vous écouter, évidemment, ce matin. Notamment Florent qui nous appelle de l'Orne, agriculteur. Salut Florent.
Salut à tous.
Ça va? Bon, ça va, les orages et tout, là, pas de problème d'ailleurs.
Moi, ça a été. Et puis, il fait plus frais, on respire, c'est génial.
Ah, bah là, effectivement. On a vu hier soir au Stade de France, c'était caniculaire, il y a une interruption. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur l'hégémonie toulousaine? Est-ce que tu as écouté un peu ce qu'ont dit les grandes gueules il y a quelques instants? C'est une bonne ou une mauvaise chose pour le rugby français?
Ben, il y a deux grandes gueules très intelligentes, et puis deux autres peut-être un peu moins.
Ça, c'est une grande gueule. Qui ça, c'est une grande gueule.
Ah, ben, qui est ben. Monsieur Saint-André et Madame Bartoli sont vraiment les plus intelligents. Bien sûr que c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. Qu'est-ce qui fait rêver? C'est le Real Madrid. Alors peut-être un peu moins, mais qu'est-ce qui a fait rêver tous les jeunes? Qu'est-ce qui a fait rêver Mbappé? Eh ben, ça a été le Real Madrid.
Lyon, ils sont challengers, en fait, le Real Madrid, non?
Jeunes, c'était Lyon qui faisait rêver. Et là, c'est très bien. Et en plus, Toulouse, au niveau, alors sur le bouquet de Brennus, ils ont l'hégémonie, mais au niveau européen, ils sont challengés par les clubs français. Donc ça veut dire qu'ils sont prenables à tout moment. Et ça fait, en fait, ça fait progresser tout le monde. C'est super bien pour tout le monde. Ils écraseraient aussi la Coupe d'Europe ou les clubs français disparaîtraient de la Coupe d'Europe dès les poules. Là, ça pourrait poser question. Mais en fait, ils sont challengeables. Et c'est juste qu'ils sont forts. Et hier,
Florent, tu es très lucide. Tu es très lucide.
Ben oui. C'est quoi sur ton intelligence?
Sur le fait que Philippe Saint-André et Marion sont très bien. Et que...
Non, mais c'est intéressant ce que dit Florent. C'est vrai que c'est un peu ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Est-ce que c'est si écrasant, en fait? Il y a le palmarès, non. Mais est-ce si écrasant depuis deux ans?
Non, mais s'il faisait le doublé Coupe d'Europe, championnat depuis 2-3 ans, là, oui, comme le PSG. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Non mais après voilà, c'est
exactement
sûr.
Mais moi c'est le côté hégémonique, toujours les mêmes qui gagnent à la fin, c'est pénible.
Mais évidemment,
ils sont bien,
t'es pas content. Ils ont perdu contre un club français.
Moi j'en ai perdu deux, j'en ai gagné deux, donc je sais de quoi je parle.
Nul.
Je suis la génération nulle.
Non mais c'est vrai. Après c'est vrai que c'est inspirant. En plus toi Cédric, t'as joué à Toulouse.
Bien sûr.
L'excellence toulousaine.
C'est les grands clubs qui font rêver.
Mais ils font tout. Mais bien sûr. Et ils sont inspirants, ils font les choses bien, ils ont l'histoire, ils ont tout pour eux, et que ça continue le plus longtemps possible. Ce que je veux simplement dire, c'est que j'appelle de dire aux autres clubs, mais inspirez-vous, allez les challenger, parce qu'il faut redonner de
l'argent.
Les autres clubs, je peux t'assurer qu'ils travaillent bien
depuis un moment.
Oui, c'est vrai, parce que ça
pourrait sous-entendre que les autres clubs travaillent pas bien quand on dit ça, alors que c'est pas le cas.
Exactement. Ouais. Moi, quand on parlait du Real Madrid, ils sont challengés quand même par le Barça très régulièrement.
Je remercie Florent au 32-16 en accueil.
Très intelligent, on a des auditeurs
très intelligents. Frédéric nous appelle d'ici les Moulineaux. Salut Frédéric.
Salut les grandes gueules.
Cuisinier,
salut Marion.
Cuisinier Frédéric.
Salut,
fait pas trop chaud en cuisine en ce moment.
Et salut Cédric. Ouais. Et salut Monsieur Pinault.
Ouais.
Bonjour. Je suis pas ici les Moulineaux en ce moment. Je suis dans le Lot-et-Garonne.
Où ça dans le Lot?
Je suis à côté de Font-Rive.
D'accord.
À côté de Agen. Donc, je suis en vacances et voilà. Quoi, il fait 40 degrés, mais bon, tout va bien.
Bon, et alors.
On est à Boulogne-sur-Mer.
T'es en vacances sous 40 degrés, mais est-ce que tu kiffes l'hégémonie toulousaine?
Non. Pourtant, j'adore le stade toulousain, mais c'est vrai que, déjà, le salary cap du stade toulousain, ça pose problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 3 équipes et à la rigueur, ils peuvent gagner le championnat quand même. Alors que les autres clubs, c'est pas tout à fait le cas. En plus, moi, je suis pas d'accord pour que les deux premiers soient directement qualifiés pour les demi-finales, parce que les autres, ils sont en train de se détruire les uns les autres, et puis le Stade Toulousain, il récupère les miettes à la fin, quoi. Quand on voit la demi-finale contre le Racing mettre 77 points, je suis désolé, mais y a pas tant d'écart que ça si le Racing avait tant de récupération. Voilà, s'ils pouvaient récupérer autant que le Stade Toulousain, ça serait pas un écart pareil.
Non mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves Frédéric. Est-ce que la formule même actuelle du Top 14, avec ses barrages par exemple,
ouais, mais
il
coûte cher,
est-ce que ça favorise
mais
pas
mais ça, le Stade Toulousain se le gagne sur attention terrain, hein. C'est la prime à la régularité.
Eh bien oui, ça,
tu as 26 journées, tu finis premier ou second, tu ne joues pas le quart de finale. Par contre, où il a raison, c'est que avant tu pouvais finir 6e ou 5e et être champion. Mais depuis 8-9 ans,
c'est le premier ou le second qui est champion. Donc tu t'aperçois que de faire un match de plus en un quart de finale ou un barrage est compliqué maintenant pour les équipes.
Non, mais est-ce que ça favorise pas aussi la domination d'une grande équipe? Marion, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais là où l'auditeur a complètement raison, c'est effectivement sur le salary cap. Parce que, en fait, le problème, c'est que ça, je pense, et là, je me tourne auprès des spécialistes, mais en fait, ils ont une telle profondeur de banc qu'ils peuvent absorber énormément de blessures et que ça leur permet, effectivement, sur la manière dont le top 14 est géré tout au long de l'année, d'arriver à absorber toutes ces blessures et quand même être très performant sur les phases finales. Mais il n'en demeure pas moins, et j'en reviens quand même sur ce quart de finale de la Champions Cup où ils perdent contre l'UBB quand même 30-15. Là où je rejoins totalement Philippe, c'est que oui, il y a cette hégémonie sur la partie du bouclier de Brennus, mais en revanche, là pour l'instant sur la Champions Cup, ils n'y arrivent pas. Je pense que ça va être l'énorme objectif du Stade Toulousain, et Philippe, tu m'arrêtes si je me trompe, sur les prochaines années, et qu'on voit très bien qu'ils sont quand même battables sur la deuxième mi-temps également d'hier soir. Donc je pense que les autres clubs se disent qu'ils sont vraiment plus très loin. Mais pour l'équité sportive globale, je crois qu'il va
falloir... Marion, Toulousain, j'y arrive pas en
Marion, je bois tes paroles. Je bois tes paroles.
Tu as tout à fait raison.
Marion, parce que le niveau est peut-être plus relevé en Coupe d'Europe où le Stade Toulousain s'est fait attraper deux fois et ils n'ont pas pu sortir premier de poule. Ils sont allés chercher un match à l'extérieur. Ça a été beaucoup plus compliqué. Le championnat, et Philippe a raison aussi tout à l'heure, la prime à la régularité d'être premier sur toute la saison, de ne pas jouer ce quart de finale. C'est vrai que ce quart de finale, il pose problème. Il pose pas réellement problème, mais il coûte cher pour aller jusqu'au bout.
Cédric, toi qui as joué à Toulouse, on rappelle, t'as fait 4 finales, t'as gagné 2 boucliers de Brennus, t'as joué sous Guinoves qui avait été à la baguette des 4 titres, notamment dans les années 90, donc ça a été égalé par les Toulousains du Gomola hier. Est-ce que tu vois dans cette équipe les mêmes recettes, les mêmes ressorts, les mêmes personnalités qu'à l'époque de Guinoves? Oui. En gros, dans l'hégémonie de l'ère Mola.
Oui, seul contre tous. Déjà, cette culture de tout le monde nous en veut, on se referme sur nous-mêmes et on travaille dur. La même petite pique que Hugo Mola leur a donné à la fin du match, j'ai eu droit avec Guinoves en disant maintenant on est en danger parce qu'on est champion. Oui, c'est les mêmes recettes, ça coule dans les veines. Du moins, si tu as la chance de jouer au Stade Toulousain, c'est que t'as cet ego. On en parlera tout à l'heure, mais cet ego plus plus.
C'est vrai qu'on n'a pas réagi, mais Hugo Mola qui dit on a fait une deuxième mi-temps de merde, mais on avait de la marge. C'est quand même.
Ouais.
Non, mais c'est typiquement Toulousain.
Oui, mais ça, c'est les grands managers.
Hein. Oui, il va les chercher. Ça, il faut pas leur en vouloir.
Mais tu sais, Pardon.
Vas-y, Marion.
Tony Nadal avait dit exactement la même, enfin d'une manière différente, mais à peu près la même chose à Rafa lorsqu'il gagne son premier Roland-Garros. Il rentre dans le vestiaire, il vient de gagner son premier Roland-Garros, il lui dit on verra si t'es un champion si tu regagnes l'année prochaine.
Ben voilà,
c'est les grands managers ont cette capacité.
Ouais, mais il faut les exciter. Et puis là, tout ce qui se passe autour du stade, ça les excite encore plus. Je suis toujours étonné à l'approche des phases finales que les autres clubs commentent le Stade Toulousain. Mais laissez-les. Arrêtez de parler d'eux. Parlez de vous, concentrez sur vous, mais pas sur le Stade Toulousain. Ils vont se nourrir de tout ce qui va se passer en extérieur.
Philippe, ça agace les autres équipes quand même d'entendre Hugo Mola là dire bon on avait de la marge quand même les gars. Non mais c'est un truc aussi pour dire il y a nous et les autres quoi. Nous on est au sommet de la pyramide. C'est l'ADN de cette équipe.
Ouais, mais c'est aussi leur point fort, c'est cette faculté de gagner et d'enchaîner les années d'après. Moi par exemple à Montpellier, on a été champion en 2022 et l'année d'après a été compliquée, elle était très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les clubs de top 14, il y en a qui ont fini il y a 4 semaines. Donc il y a pas mal de clubs, dans une semaine, ils rattaquent l'entraînement. Eux, le Stade Toulousain...
Mais ça a été aussi la force de Toulouse pour cette phase finale. Ça fait 2 mois qu'ils savent qu'ils vont être en demi.
Oui, mais la préparation physique est différente, la reprise est plus tardive.
Mais la reprise est plus tardive.
Et là, ils se cherchent des premiers matchs pour monter en puissance. La préparation, elle est axée très vite sur le physique, mais physique avec ballon pour attraper les rodages très, très rapidement. Quand tu fais finale, cette expérience, cette façon de se préparer, elle est totalement différente. Parce que si tu veux aller chercher le bouclier de Brennus, dans ce championnat qui est compliqué où tu as 8-9 clubs, il faut taper très fort d'entrée. Le Stade, eux, peuvent se permettre, et on le voit, ils ont quelques points d'avance à la fin du championnat, ils ont une préparation différente.
On va reparler tout à l'heure de cette finale du top 14. Est-ce que Toulouse était vraiment prenable aujourd'hui? Les Montpellierains nourrissent des regrets. Ce sera à 10h40. on vous attend, supporters montpelliérains notamment. On vous a pas trop écouté ce matin au 32-16. Je remercie Florent et Frédéric d'ailleurs d'avoir participé au débat. Et nous, on va revenir dans un instant pour le zapping. Tiens, on va parler Wimbledon, on a J-1, Marion. On va parler des championnats de France de cyclisme, Jérôme, parce qu'on a une semaine du Tour de France. On a plein d'actualités. La Formule 1 aussi. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on va reparler de la finale du top 14 tout à l'heure à 10h40. Est-ce que Toulouse était vraiment prenable dans cette finale? Dans un instant sur le ring, J-2 avant France-Suède, en 16e de finale de la Coupe du Monde de foot. Est-ce qu'on s'enflamme trop vite pour ces bleus? Votez sur le compte X. Et c'est le moment de jouer justement pour gagner votre prime de match avec 500€ par but marqué à chaque match du mondial. Je vous rappelle, il y a eu des matchs cette nuit et plein de buts, notamment un nouveau pour Lionel Messi. Tiens, la prime de match est actuellement de 77 000€. 77 000 euros. Retenez bien le montant de la prime. À tout moment, on peut vous appeler. Hein. Si quand on vous appelle, vous donnez le montant de la prime, et ben vous la remportez. Envoyez dès maintenant but au 732-16. But au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à toutes et tous. Tout de suite, le zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas, les amis. En tennis, on est à J-1 avant le début de Wimbledon. Marion Bartoli.
Alors, à ta grande surprise, je pense. Non, je m'en fous pas.
Ah, si on s'en fout, accompagné à la sortie. Jérôme, je m'en fous. Ah, bah, tu vois, bah oui. Bah.
Oh, Jérôme.
Parce que c'est toujours pendant le tour. C'est toujours pendant le tour, il peut pas regarder. Philippe,
je ne m'en fous pas.
Cédric,
j'aurais aimé qu'on soit tous en train de dire je m'en fous pour laisser Marion toute seule, qu'elle fasse son long monologue.
J'adore le tennis.
Et t'adores le tennis, t'adores l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Vas-y, déroule, Marion.
Juste un rappel. Yannick Sinner doit se rattraper après son élimination surprise au deuxième tour de Roland Garros. Alcaraz forfait. Dans sa partie tableau, Sinner pourra retrouver Djokovic en demi-finale. Zverev, récent vainqueur de Roland Garros. Et dans l'autre partie de tableau, Sinner qui va débuter demain face à Kecmanovic. Est-ce qu'il va être injouable, Sinner, Marion, là, à Wimbledon, après son raté de Roland-Garros, tu penses?
Alors écoute, j'ai pu assister à son set d'entraînement contre Novak Djokovic. Ils ont d'abord fait 45 minutes sur un court d'entraînement à Orangi, à l'extérieur. Puis après, ils sont partis faire un set d'entraînement. Alors c'était une journée, il faisait extrêmement chaud, il faisait 35 degrés dehors. Donc ils ont joué avec le toit fermé sous la clim.
Ah oui.
Et le niveau de jeu était absolument monstrueux. Mais surtout, ce qui est exceptionnel, c'est Sinner, c'est sa qualité de frappe, quoi. C'est... La balle, elle sort avec une facilité de la raquette, avec une puissance, c'est juste monstrueux. Donc encore une fois, et je pense que c'est exactement la même chose qu'à Roland-Garros, la seule chose qui peut le gêner, c'est la chaleur. Alors sur la première semaine de Wimbledon, les températures vont beaucoup baisser, on va être sur des températures vraiment beaucoup plus clémentes, autour des 20 degrés. En revanche, c'est prévu bien pour normalement, Sinner. Alors oui, mais c'est prévu normalement de remonter en deuxième semaine. Alors jusqu'à quel niveau? Je suis pas totalement météorologue, mais néanmoins, c'est effectivement pour moi la seule chose qui aujourd'hui peut l'empêcher d'aller très loin aux atouts du Grand Chelem, parce qu'en termes de niveau de jeu, il est juste absolument monstrueux. Et ce qui était incroyable, c'est que je tournais la tête, j'avais Sinner et Djokovic qui s'entraînaient, et je tournais la tête de l'autre côté, j'avais Serena Williams qui faisait l'entraînement en Marta Kostyuk. Donc autant te dire que j'étais quand même dans un emplacement assez privilégié.
Donc attention quand même, tu dis à la deuxième semaine.
Attention au coup de chaud.
Vous avez noté Marion quand même.
Attention au coup de chaud en deuxième semaine. Et attention à Novak Djokovic aussi.
Je ne sais pas, parce que je ne suis pas totalement météorologue. Ça ne veut pas dire je ne suis pas météorologue. C'est quand même une nuance importante pour Marion.
Mais non, mais parce que je me suis quand même renseignée, tu vois, donc j'ai quand même travaillé.
Mais il faudra nous faire un point météo tous les jours, Marion.
Après, ça peut quand même toujours évoluer.
C'est quand même super.
Ne me lance pas de
Marion, elle peut regarder un set d'entraînement entre Djoko et Sinner, quand même. C'est quand même une folie.
D'avoir gagné après. C'est les droits.
Allez, on zappe. Je m'en fous pas. En cyclisme, c'est la course au maillot bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Championnat de France de vélo sur route. Il va faire très chaud, Jérôme.
Ouais, je m'en fous pas pour deux raisons.
Marion.
Ah bah alors je te rends l'appareil, Jérôme, je m'en fous.
Ah là, on est dans la cour de récré. Attention, c'est vrai.
Je m'en fous pas. Philippe,
je ne m'en fous pas non.
Alors, Dorian Godon, je vous rappelle, est le vainqueur sortant. La course en ligne se dispute aujourd'hui à la Tour du Pin en Isère. Départ après 11h. Kevin Morand est sur place pour RMC. Salut Kevin.
Georges, salut les GG.
Alors Kevin, salut, à quoi ressemble le parcours, le plateau et les conditions peut-être surtout vont être importantes aujourd'hui?
Ouais, alors les conditions, ce sont 36 degrés annoncés cet après-midi. Et après discussion hier entre organisateurs et syndicats de coureurs, la course a été raccourcie avec un tour de circuit de 16 km en moins. Au lieu de 241 km, les coureurs en parcourront 225, franchiront 14 fois au lieu de 15 la montée de Béjuy, 1 km à plus de 8% de moyenne, qui a fait la sélection cette montée hier chez les femmes en étant située toute proche, moins de 3 km de la ligne d'arrivée. Et puis pour le plateau, eh bien Dorian Godot remet son maillot tricolore en jeu avec l'espoir d'un doublé, le coureur Net Company Ineos.
Déjà, c'est un des plus beaux maillots du peloton. J'espère pas le quitter parce qu'il me va tellement bien. Je suis chauvin aussi. L'année est passée très vite au final. Elle a été vraiment très fructueuse, donc la forme est bonne et le circuit est quand même vraiment dur, mais je suis en forme, donc ça reste encore une belle opportunité.
Comme Godon, il y a au départ un beau plateau de punchers français qui brille cette saison. Le coéquipier de Godon, Axel Laurence, ou encore Romain Grégoire, peut-être le plus favori de tous, vainqueur d'étape la semaine dernière sur le Tour de Suisse, avec en plus une grosse équipe autour de lui. Le champion de France 2024, Paul Lapeyra, ou d'autres prétendants plus francs-tireurs comme Axel Baudin et Benoît Cosnefroy se mêleront aussi à la bataille. La grosse cote, c'est Paul Magnier, l'Isérois, sprinter qui passe bien les bosses, certes, s'imaginerait bien survivre sur ses terres à ce parcours exigeant. Je ne vous ai pas cité les noms de Sexas, Vauclin ou Martinez, puisqu'ils font l'impasse aujourd'hui. Priorité pour eux sur le Tour de France qui débute dans 6 jours seulement.
Et oui, à Barcelone, où on sera avec les grandes gueules du sport. 36 degrés, Jérôme, on enlève 16 km, on rabote ça au parcours. Bon, c'est compliqué aujourd'hui, ça va être compliqué.
Ouais, c'est compliqué. C'est 240 km de vélo, c'est un métier. Il fait chaud en juin, dans l'Isère un peu plus. Jusque-là, tout est à peu près normal. On connaît les conditions, elles sont les mêmes pour tout le monde. Soit on coupe de moitié la distance, soit on la laisse 16 km à 36 degrés, on va partir à 11h parce que les droits télé font qu'il faut partir à cette heure-là. Je trouve un peu ridicule d'avoir enlevé un tour. C'est ce qu'ils ont fait hier chez les filles aussi. Elles ont eu très chaud, il y en aura partout. Le circuit est très difficile. Moi, j'ai hâte parce que c'est toujours un événement très important, le championnat de France.
Le maillot bleu, blanc, rouge.
Le maillot bleu, blanc, rouge, c'est le porté, c'est un an, ça représente ton pays.
L'avoir peut-être sur le tour.
Chez les jeunes, tu as envie d'être champion de France et chez les pros, ça continue de durer. C'est un circuit qui sacre les meilleurs parce que Lucas Lessoueur, un des grands favoris de la course amateur, est champion de France amateur. Célia Géry, hier, a été étincelante et elle a gagné le titre chez les filles. Et moi, je suis déçu de ne pas voir les têtes d'affiche françaises.
Voilà, moi, j'ai une question. Voilà, je comprends pas pourquoi ils font l'impasse. Enfin,
c'est les championnats de France.
Normalement, tu n'as pas le droit l'impasse sur le championnat de France, même s'il y a le Tour de France dans une semaine.
Toi, tu veux voir
le
sexe,
mais tu devrais
regarder en marchant.
Et ça devrait être obligatoire de faire part et de pouvoir porter le bleu, blanc, rouge sur le Tour de France. Ça devrait être obligatoire pour les grands
champions. Tu sais que Léon Marchand, il fait championnat de France parce que c'est aussi important pour se qualifier pour les championnats d'Europe.
Non, mais je rejoins les copains. En Belgique, les grandes font pas le championnat cette année. C'est écrit dans le règlement, si tu ne fais pas le championnat, tu es suspendu 10 jours. Ça veut dire que tu loupes le tour. Eh bien, ouais. Evenepoel, Wellens, Van Aert, me semble-t-il, ont fait du forcing et la Fédé a cédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coureurs décident de plier un championnat ou pas. Alors, tant mieux.
Peut-être qu'il est mal placé, ce championnat aussi.
Mais
ce championnat
national, il a toujours été placé là.
Oui, mais...
Et je ne vois pas pourquoi on le ferait à une autre. Ça n'empêchera jamais un coureur de briller sur le tour que de faire une course.
Mais porter le maillot de champion de France, c'est exceptionnel.
Tu dénigres ce maillot-là.
À la grande époque de Julien Alaphilippe, il ne venait pas non plus sur le championnat de France.
Et heureusement qu'on n'a pas Marc Madieu, là, parce que sinon, je peux vous dire qu'on ferait une heure et demie.
Ça manque un espèce de manque de respect.
On est proche du manque de respect, t'as raison.
Mais oui, mais si la Ligue avait autre chose à faire que d'enlever un tour et de se pencher vraiment là-dessus, sur les vrais sujets, peut-être que ça avancerait.
Merci Kevin, on se retrouve tout au long de la journée évidemment sur RMC pour commenter cette course. Allez, on zappe en Formule 1, les deux Ferrari partiront derrière une Mercedes en pôle au Grand Prix d'Autriche. Philippe,
ça ne m'intéresse pas.
Bah, carrément. Cédric,
je suis comme Philippe. Non, je suis pas assez calé là.
Jérôme,
ah non, je m'en fous pas.
Ah, et Marion.
Ah bah non, surtout pas. Allez, Lewis.
C'est quoi le point météo, Marion?
Il va faire chaud.
Il va faire chaud à Spielberg. Départ à 15h en direct sur RMC. C'est George Russell qui a signé le meilleur temps devant les Ferrari de Leclerc et de Lewis Hamilton, vainqueur du dernier Grand Prix et sur 3 podiums consécutifs, le leader du championnat Kimi Antonelli partira 4. T'y crois, Lewis Hamilton, Marion?
Bah bien sûr que j'y crois, puis surtout pendant que pendant une saison, et tu le sais parce que t'étais avec moi, Jean-Luc Roy m'a répété que les oui c'était fini, qu'il gagnerait jamais plus rien, que c'était terminé, qu'il fallait que je fasse une croix dessus, que voilà je pouvais remballer tous mes espoirs. Et ben non, il est pas fini. Et ben non, il va continuer à performer, et puis surtout de le voir aussi heureux, c'est ça qui me fait le plus.
Non mais c'est ça qui fait rêver. Quoi.
Allez les oui surtout.
Oui bah moi ça fait partie des garçons qui me donnent envie de continuer à regarder la F1. Il y a un article chez nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui dit que c'est un des derniers poètes de la Formule 1. Je suis assez d'accord avec lui.
Il
te donne envie de regarder la F1. Et puis avec cette victoire le week-end dernier, et il sait que lui-même est capable de gagner encore des grands prix, et il sait que la voiture aussi est capable.
Mais attends, donc, il est deuxième au classement pilote.
Non, mais il est encore
attends, il est
au top niveau. Mais tu sais, le classement pilote c'est une chose, mais gagner des courses, regagner et Lewis Hamilton gagner avec Ferrari, ce qu'ont fait tous les grands champions du monde de F1, c'était important pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce déclic maintenant? Et comme tu le dis, il est très heureux, il est souriant. Franchement, ça me donne envie de regarder la F1 de nouveau.
De voir Kim Kardashian dans les paddocks et de voir que ça fait gagner Lewis Hamilton. Alors là, franchement, ça me redonne vraiment.
Tu fais Marion entre Serena, Sinop, un iPad sur les genoux, quoi.
Tout est retransmis dans sa tête.
Je te promets que c'est largement possible que Lewis Hamilton soit présent pour le premier match de Serena Williams à Wimbledon.
Oh là là, l'information que nous donne Marion.
Je pense que c'est largement possible, je vais vérifier.
Et là, par contre, je ne sais pas vers qui ira Marion, vers Lewis Hamilton ou vers Serena Williams. Ça, c'est très très compliqué.
Hamilton, je pense.
Allez, on ne va pas nous déclencher une crise de jalousie qui me garde à chien.
Je m'en fous pas. En natation, Léon Marchand marque les esprits pour sa première course en France depuis les JO de Paris 2024.
Philippe. Ah non, je suis intéressé. Lui, il vient en France, il vient faire le championnat de France.
Exactement.
Il vient défendre.
On adore Léon Marchand.
Cédric, pareil. Non, pareil. Jérôme.
Oui, évidemment que ça m'intéresse.
Alors, ça s'est passé hier au championnat de France de natation à Saint-Etienne, où se trouve Julien Richard. Salut Julien.
Salut Marion, salut à toutes et à tous.
Ah bah,
bonjour
Julien. Marion.
Bonjour.
Bonjour
Julien. Bonjour
Julien. Léon est devenu hier champion de France du 400 mètres 4 nages en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année. Pourquoi c'est si impactant, Julien?
4 minutes 4 secondes et 56 centièmes, c'est la cinquième performance de l'histoire sur la distance, sachant qu'il en détient désormais 4 sur 5. Et il n'a nagé que 3 fois plus vite seulement dans sa carrière. C'était son record du monde en 2023, le titre olympique à Paris et son premier titre mondial en 2022. Et surtout, donc, jamais il n'avait nagé aussi rapidement à ce moment de la saison, alors qu'il n'est pas pleinement préparé. Léon Marchand.
Elle me rassure parce que j'ai pas eu beaucoup de moments où je me sentais bien là depuis plusieurs mois. J'ai enfin ressenti un peu de fraîcheur sur le premier 200 et j'avais des jambes pour la brasse, ce qui est assez rare aussi pour moi en ce moment. Je pensais que j'avais pu nager moins de 4-8. Peut-être 4, c'était assez surprenant quand même. Ouais, je me suis étonné. Je pense qu'au championnat de France, j'ai jamais fait en dessous de 4-9. Donc c'est très bien, c'est très bien. Je suis content.
Soulagé, un peu surpris presque, et ça vient surtout concrétiser ces derniers mois de travail très intense aux États-Unis avec Bob Bowman. Et puis ça ouvre des perspectives plutôt alléchantes pour dans un mois à Paris, les championnats d'Europe, où là il sera préparé. Il va là aussi débuter par cette épreuve du 400 mètres 4 nages. Mmh. Il y a quelques semaines, il nous avouait qu'il voulait battre son record du monde. Ça pourrait donner quelque chose de très, très grand à Paris.
Merci Julien, on suit ça avec toi aujourd'hui, même si c'est son jour off, Léon Marchand. Marion.
Tu sais ce qui est fabuleux, c'est lorsqu'il avait été champion du monde à Singapour en 2025, il avait été sacré en 4:04.73. Donc là, il a nagé même plus vite que son sac de championnat du monde de Singapour.
Cédric, t'avais le temps, toi?
Oui, j'étais en train de regarder les informations de Marion. Je confirme qu'elle a raison et c'est de bonnes perspectives pour l'avenir. Il est.
Non mais ça
tu donnes les temps de passage.
Ça vous fait halluciner vous de voir Marchand comme ça arriver à se remettre en marche,
c'est le grand champion,
à se remotiver. Parce que la difficulté, c'était ça.
C'est un champion incroyable.
Moi,
ce que je trouve
encore plus beau, c'est qu'il vient dans la fin de préparation, c'est-à-dire qu'il vient sur un état de fatigue. Bowman l'a fait énormément travailler pour être prêt au championnat d'Europe, ce qui est son objectif cette année, c'est en France. Il prend le risque de ne pas gagner, de ne pas être champion. Lui, le GOAT dans la natation, mais il vient dans son pays, il vient faire les championnats, il vient pour essayer de peaufiner sa prépa, mais il met un point d'honneur à gagner. Ça,
tu parles au cycliste.
Après une semaine de préparation, 15 jours de préparation en altitude, tu peux venir faire une course dans l'Isère, retourner en montagne, tu viens devant ton public, tu gagnes et tu repars. Ça, c'est les grands champions.
Exactement.
Il ne portera pas de slip de bain blanc rouge, Jérôme. Il n'y a pas de slip de bain blanc, on devrait y penser. Ou une écharpe, nager avec une écharpe. Allez, on zappe rapidement parce que je voudrais vous donner une dernière information. Merci Julien, on se retrouve évidemment sur RMC pour suivre ces championnats de France. Je m'en fous pas, Tony Parker devient entraîneur de l'ASVEL où il est président.
Je m'en fous pas parce que j'aimerais connaître les ouais. détails du contrat.
Philippe.
Donc c'est lui qui il se fait son propre camp.
Ouais, c'est, ça.
C'est sympa. Je m'en fous pas.
Non, je m'en fous pas, je vais écouter.
Jérôme, je m'en fous pas. La légende du basket français va poursuivre sa carrière de coach dans le club qu'il préside depuis 2014. Je rappelle qu'il est également sélectionneur depuis quelques semaines des U17 de l'équipe de France. Ils ont perdu d'ailleurs hier en Coupe du Monde face aux États-Unis. Alors il a dissocié nos confrères de l'équipe. J'aurai plusieurs casquettes. Hein. Je serai toujours actionnaire minoritaire, président des opérations basket et coach. Donc il va avoir d'ailleurs un gros staff avec 9 personnes autour de lui, dont son ancien sélectionneur Vincent Collet. Vous savez que l'ASVEL a plus que doublé son budget parce qu'ils ont de nouveaux investisseurs qui viennent notamment des États-Unis. Et donc voilà, il dit à nos confrères de l'équipe qu'il a notamment signé un contrat de 2 ans, peut-être plus un, avec lui-même.
Il s'auto-vire. Il s'auto-promotionne, il s'auto-vire.
Non, mais en fait, il dit regardez, c'est un peu comme en NBA à l'époque aux Spurs. Comment il s'appelle son ancien entraîneur, Greg Popovich, disait il était general manager et il a été également l'entraîneur.
Mais donc, tu perds 4 ou 5 matchs, tu vas voir le président parce qu'il y a une réunion de crise et c'est
oui,
toi.
Tu vas voir toi-même.
Il dit il y a la réunion des actionnaires. Il y a des actionnaires.
Ça, c'est un miroir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Tony?
Mais attendez, les gars, il a fait rentrer des investisseurs américains. Oui. Il y a un board. Et il a Vincent Collet avec lui. Qui voulez-vous qu'il lui arrive? Et s'il est pas bon, c'est Collet qui va être entraîneur.
Il va être général manager.
Moi, je pense que c'est un choix étrange, mais dans la galaxie Parker, c'est tout à fait logique.
C'est ça.
Il a des portraits de chez lui, de lui-même. Il est. Il va bientôt mettre des drapeaux.
Ça s'appelle miroir. Je me reconnais pas dans la galaxie. Alors, on va parler de l'importance de l'ego justement tout à l'heure.
Ah oui,
dans
voilà,
le vestiaire.
Là, on y est là.
Et là, évidemment. Là, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur vous. Qui se regarde dans le miroir? Qui a des photos de lui dans son salon? Allez, on revient dans un instant. On va parler des Bleus. On a J-2 de France-Suède à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on s'en bat le temps un peu trop vite? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.